pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix et Livre. On commence comme toujours par l'Incipit, la première phrase d'un roman. J'ai choisi la première phrase du Seigneur des Anneaux de Tolkien aujourd'hui. Quand Monsieur Bilbo Bessac de Cul-de-sac annonça qu'il célébrerait bientôt son 111e anniversaire par une fête d'une magnificence exceptionnelle, il y eut force agitation et rumeur à Hobbitville. Et voilà donc le tout début d'une grande épopée. La plus grande exposition jamais consacrée à l'œuvre de Tolkien se tient à la BNF à Paris. Elle se termine la semaine prochaine. Nous avions eu la chance de la visiter en avant-première il y a quelques mois et je vous propose de refaire la balade cette semaine avant la fermeture. Ensuite, nous lirons d'autres livres avec Eric Orsena. Nous irons visiter sa bibliothèque. Les libraires sont là pour des bonnes idées de lecture et nous terminerons avec la chronique jeunesse de Victor Dolande. Mais d'abord donc, c'est parti pour une balade en terre du milieu.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
Et nous voilà donc à la BNF, à l'orée de l'exposition Tolkien et donc de la Terre du Milieu, avec le co-commissaire de l'exposition, Vincent Ferré, professeur de littérature à l'UPEC, l'Université Paris-Est-Créteil, grand spécialiste de Tolkien. Il est venu plusieurs fois nous parler de l'auteur du Seigneur des Anneaux à Europe 1. Et là, bon là c'est Vincent Ferré-Lande. Vous avez réalisé un rêve, là.
Je suis très content de vous inviter ici pour vous montrer le dispositif qui a été mis en place en deux parties dans cette exposition destinée au grand public et aux amoureux de Tolkien, aux curieux, aux enfants, aux adultes. Donc 1000 mètres carrés pour présenter la Terre du Milieu, mais aussi tout le reste de l'œuvre de Tolkien, qui est beaucoup plus varié, beaucoup plus divers qu'on ne le croit souvent en France.
Juste, je précise, c'est la plus grande exposition jamais organisée sur Tolkien, dans le monde.
Oui, tout à fait. La BNF a travaillé en collaboration avec la bibliothèque Bodleian d'Oxford, l'université Marquette aux États-Unis, pour rassembler des pièces qui, pour la plupart, n'avaient jamais été mises côte à côte. Dans 1000 mètres carrés de pièces de Tolkien, de cartes, de manuscrits, de photographies, d'aquarelles, de dessins, et de pièces venues de la BNF et de musées prêteurs qui servent à introduire à l'univers de Tolkien.
D'accord. Donc là, on est au tout début de l'exposition, dans la première pièce. Comment ça s'organise? On va passer d'univers en univers?
Oui. Présenter la Terre du Milieu, c'est se promener dans une série de paysages et d'univers auxquels sont associés des peuples et des histoires. Donc l'exposition commence par une petite présentation de Tolkien, mais assez rapide, parce que c'est l'objet de la seconde partie de l'expo. Et tout de suite, on est mis face aux couvertures, aux projets de couverture de livres dessinés par Tolkien.
Oui, pour le Hobbit. Il faut dire que Tolkien était dessinateur.
Absolument, depuis son enfance. Donc, couverture des livres, Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Il était important de partir des deux œuvres les plus connues, publiées en 1937 et 54-55, pour ensuite montrer aux visiteurs la diversité de cet univers.
Alors on entend le papier de soie parce que on a eu la chance de visiter avant l'ouverture au public et donc c'est encore un peu protégé. On est privilégié quand même.
Oui, parce que ce sont des pièces qui sortent dans des conditions de protection et de préservation minutieuses.
Un très beau dessin avec une montagne. En premier plan, il y a des arbres et puis tout derrière, une montagne au loin.
Et vous voyez Smaug qui vole.
Le dragon, voilà. Du Hobbit.
Et les aigles qui vont aider le Hobbit. Et ça, c'est un projet de couverture qui a été finalement publié en 1937, de la main de Tolkien, mais aussi avec des annotations amusantes, puisque Tolkien avait envie que le dessin contienne non seulement du vert, du noir, du bleu, du blanc, mais aussi du rouge. Et on voit dans la marge une marque, qui est peut-être celle de l'éditeur, qui indique en anglais « ignorer le rouge », parce que pour des raisons de coût, l'éditeur préférait réduire un petit peu la palette, et donc le soleil va être atténué. Mais Tolkien avait effectivement cette capacité à visualiser le monde imaginaire, la Terre du Milieu, Alors même...
Pourquoi ça nous paraît familier ? Parce que ça a été reproduit déjà sur des couvertures ou parce que c'était tellement écrit de cette manière-là ? Il savait tellement bien décrire qu'on s'est déjà fait les images mentales de Tolkien.
Alors c'est un peu tout ça à la fois, mais en même temps, la Terre du Milieu a une histoire assez étonnante. Quand Le Hobbit paraît en 1937, un livre pour enfants, qui est à l'origine une histoire pour ses enfants, Tolkien invente depuis 20 ans des légendes qui se déroulent dans un monde imaginaire mais qui sont destinées aux adultes. Et donc l'arrivée du Hobbit en Terre du Milieu, c'est vraiment un hasard de l'histoire, et Tolkien poursuit l'aventure de Bilbo à la demande de son éditeur, mais sans savoir où il va aller.
Rappelez quand même, Vincent, avant, comment est née la légende du Hobbit et du Seigneur des Anneaux ?
Alors, de deux manières différentes, c'est-à-dire que Le Hobbit est l'une des histoires que Tolkien inventait pour ses enfants, pour les endormir le soir. Ils avaient vraiment de la chance. Hein. On montre aussi dans l'exposition les lettres du Père Noël, Rover Random, Monsieur Merveille. Mais Le Hobbit est son histoire pour les enfants la plus connue. Mais il faut imaginer que ce professeur d'Oxford, qui travaillait énormément, qui faisait beaucoup d'heures de cours, beaucoup plus que ce qui était attendu, qui publiait des livres, des articles savants, dont les conférences font encore date aujourd'hui et font encore autorité, eh bien, le soir, il se transformait en conteur pour ses enfants et il utilisait toutes ses connaissances en littérature médiévale européenne. Il les injectait dans les histoires pour leur donner plus de consistance, de cohérence, de solidité. L'autre méthode qu'il employait, c'est qu'il dessinait des cartes.
Wow.
Ça, c'est celle, la carte de travail du Seigneur des Anneaux à la fin des années 30. Comme il a expliqué dans ses lettres, quand on se lance dans une si longue histoire, il faut faire une carte. Et on voit comment, à partir de la carte qui comporte plusieurs feuillets, se déploie le voyage que Tolkien n'avait pas prévu à l'origine. Puisque dans cet univers, Bilbo est allé en ligne droite, si je puis dire, vers la montagne solitaire. Tandis que les hobbits et leurs compagnons vont chercher leur chemin sous la montagne, dans les forêts des elfes, jusqu'en Mordor. Et c'est l'itinéraire de l'exposition.
Ah d'accord, et c'est très émouvant aussi ce document parce que donc il y a plusieurs feuillets rattachés les uns des autres par du scotch.
Voilà.
C'est comment où est-ce que d'où ça vient ? Comment vous avez retrouvé ça ?
Alors, les archives Tolkien sont principalement réparties en deux lieux, la bibliothèque Bodleian d'Oxford qui a travaillé donc avec la BNF et c'était le lieu où Tolkien faisait ses recherches. Donc c'était sa deuxième maison. Et une partie des manuscrits vient des États-Unis, de la bibliothèque de l'université Marquette, qui a travaillé avec la BNF, parce que Tolkien, on l'ignore souvent, mais a eu des difficultés financières tout au long de sa vie. Il a eu des difficultés et pour élever sa famille, il corrigeait beaucoup plus de copies que ce qui était attendu, et il a vendu les manuscrits du Seigneur des Anneaux dans les années 50 pour payer les frais médicaux de sa famille. Il l'explique dans des lettres qui ont été publiées.
Et on pense que ça s'est vendu à plusieurs centaines de millions d'exemplaires aujourd'hui ?
Oui. Il aurait été le premier surpris. Donc, par exemple, dans cette salle qui est la salle consacrée au Hobbit, on a des manuscrits du Hobbit, des listes de noms propres de personnages, une esquisse de la structure du texte. Et puis, vous voyez, toute cette liste de noms-là, fait des essais. Il regarde ce qu'il va être porteur comme récit. On reconnaît Dunadan, ça passera dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, des noms de lieux, des noms de villes. Et on voit bien, ça c'est... C'est l'entrée dans l'atelier du créateur. Ce sont les coulisses de l'œuvre. Et évidemment, ça fait partie des documents qui ne sont pas reproduits dans les livres et qu'on va découvrir pour la première fois pour beaucoup de visiteurs.
Il y a un nuage d'au moins une cinquantaine de noms. Là.
Voilà. Et puis, des documents de travail. Regardez. Les hobbits, les mesures en taille hobbit. C'est-à-dire, en gros, combien de kilomètres à pied un hobbit peut marcher par jour ?
L'ongle aussi.
Exactement, toutes les mesures.
Parce qu'il faut rappeler que Tolkien a réinventé tout un monde, tout un univers, des langues, des religions, des chants et aussi les mesures.
Des mesures, parce qu'il fallait reconfigurer tout l'univers de la Terre du Milieu à taille de Hobbit.
On souffle un peu, là, on va se caler dans la comté quelques minutes et on revient tout de suite pour continuer notre voyage. Merci Vincent Ferré, à tout de suite.
La Voix est livre. Nicolas Caro.
Retour dans La Voix est livre, toujours perdu dans la Terre du Milieu. Enfin, je dis perdu, non, parce qu'on a un guide, Vincent Ferré, le co-commissaire de l'exposition et grand spécialiste de Tolkien. Là, dans quelle salle on se trouve, Vincent
Ferré ?
Alors,
avec tous les arbres et les éléments naturels, aucun doute possible, on est sur les terres des elfes, en particulier en Lorienne, mais aussi, on va passer d'abord par chez Elrond, si vous voulez bien, dans ce lieu absolument merveilleux qui s'appelle Rivendell, Fandval en français, et qui, donc ce voyage commence par cette aquarelle dessinée par Tolkien en 1937 pour le Hobbit, mais ce lieu reviendra dans Le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment un relais entre l'histoire pour les enfants et le récit très long pour les adultes.
C'est une vallée encaissée au milieu de laquelle coule une rivière.
Et c'est la dernière maison hospitalière où Elrond accueille les voyageurs, les réconforte et les conseille.
Et ça, on l'a trouvé où ? Ça appartient à la famille ?
Alors, c'est en dépôt à la Baudelaire, et c'est une illustration qui a été publiée dans Le Hobbit en 1937. Et Christopher Tolkien, donc le troisième fils de J.R.R. Tolkien, a raconté comment, petit garçon, une nuit, il s'est réveillé en pleurs, cherchant son père. Et il l'a retrouvé dans son bureau, penché sur cette aquarelle qu'il était en train de peindre. Et Christopher Tolkien a raconté comment ces pleurs de petit garçon, consolé mais quand même un peu effrayé, se sont mêlés à l'eau de la rivière. Voilà, c'est presque aussi beau que le récit.
Très poétique.
Donc, Elrond, mais aussi le...
Alors, je rappelle qu'il y a des bruits de papier de soie et de plastique parce qu'on est juste avant l'ouverture.
Voilà.
Et ce sont des documents, on l'a pas assez dit, mais c'est exceptionnel, on n'a jamais vu ça.
Et on ne le reverra jamais. Il faut vraiment bien en profiter. Moi-même, je pense venir à peu près tous les jours pour essayer de...
Alors là, qu'est-ce que c'est que ce tableau, l'arbre des langues ? Ça fait un peu peur. Hein. Il y a des flèches, des mots partout.
Donc, comme vous l'avez dit, Tolkien inventait des lieux, des peuples, des histoires, mais aussi des langues. Et ces langues évoluent. De même que le français moderne n'est pas la même chose que l'ancien français et le latin. Tolkien, qui était professeur à Oxford, spécialiste de langue et littérature médiévale, anglaise et européenne plus largement, a inventé une sorte d'histoire des langues, de généalogie, alors d'arbres, parce qu'on part du Valarin, on voit les noms des différents peuples, avec des lieux associés, comme le Beleriand, par exemple, et puis, comme vous le voyez, plein de branches de langues en fonction de la ville ou du lieu où sont parlées ces langues. Et j'aime beaucoup, dans la légende, il est indiqué « ces langues sont encore parlées » pour les dernières. Par exemple, en Valinor, la Terre des Dieux, on parle encore l'Eldarin.
Ces langues demeurent dans les mémoires et les écrits.
Voilà.
Par exemple, le golodrin ancien demeure dans les écrits, mais n'est plus parlé.
Tout à fait. Je vous en passerai un exemplaire, si vous voulez.
C'est quand même émouvant. Quand même, c'est la définition de l'écrivain, ce côté démurge, quasiment Dieu, qui a créé un monde, un univers, des langues, une religion, tout.
Vous avez raison de mentionner Dieu, c'est-à-dire que la foi de Tolkien est très discrète dans ses écrits, mais il explique dans une de ses conférences que l'écrivain est une personne qui crée à partir du monde créé par Dieu, ce qu'il appelle la subcréation, la création au second degré. C'est une redistribution des cartes, en fait.
Parce qu'en fait, il recrée aussi à partir des images du Moyen-Âge, des légendes nordiques, et de ce qui existe. Il refait un monde.
Et de sa visite de lieux dans le monde réel qui l'ont inspiré. On sait que telle scène où sa femme, jeune femme, dansait, a été une source d'inspiration pour lui, ou des cavernes.
Là, on a carrément des bijoux d'elfes.
Voilà. Alors, d'elfes, on ne sait pas, mais en tout cas, la BNF a choisi d'inclure dans l'exposition des objets, des artefacts qui permettent de mieux visualiser le monde de Tolkien. Il faut vraiment se rendre compte que Tolkien était un Anglais et que son univers de référence, littérature nordique, la littérature médiévale anglaise, n'est pas celle que l'on connaît le mieux en France. Nos références, c'est plutôt le roi Arthur, par exemple, donc il fallait aider à visualiser. Ben là, vous soulevez un tissu qui masque un des trésors de l'exposition, le livre de Mazarbul, un artefact venu directement de la Terre du Milieu, que Tolkien a fabriqué en espérant l'inclure dans Le Seigneur des Anneaux.
Pour qu'on les décrive un peu, je vous laisse faire.
3 pages de manuscrit, dont plusieurs versions successives sont présentées au mur et dans la vitrine, la version finale. Des pages déchirées avec du sang, de l'encre rouge, puisque ces pages sont découvertes par les héros dans le récit après une bataille. Donc il y a eu des morts dans la Moria, dans le royaume souterrain de la Moria. Et Tolkien voulait que les lecteurs découvrent ce document historique qui viendrait rendre vraisemblable. Mais comme dans Les Liaisons dangereuses, on nous dit au début que les lettres ont été découvertes et qu'elles sont éditées. C'est le même genre de procédé. Sauf que là, donc la BNF a juxtaposé la transcription en un et la traduction en anglais.
Et ça, donc, ce sont les manuscrits originaux. Voilà. C'est la première fois qu'on voit ça en France.
En tout cas, c'est la première fois qu'on les voit en France. Et c'est la première fois qu'on voit côte à côte plusieurs versions venues des États-Unis, de la bibliothèque Baudelaire, puisque Tolkien était extrêmement minutieux dans son travail. Et là, vous avez une ébauche de chacune des pages. On a jusqu'à 3 versions différentes. Et là, ce que vous avez, c'est un autre exemple de l'écriture naine. C'est l'inscription qu'on trouvera finalement sur la tombe de Balin. Et comme vous le voyez, ça a été barré, corrigé, retravaillé.
Et quel est-il écrit sur la tombe de Balin?
En fait, il est indiqué Balin, fils de Fundin, seigneur de Moria.
Et vous parlez, vous, la langue elfique et la langue des nains?
Ça ne se parle pas vraiment, ça se lit, ça se décode, mais il y a tellement de versions et d'étapes et de variantes que je passe mon temps à oublier tout ce que je sais. Mais heureusement, il y a d'excellents spécialistes en France qui nous ont beaucoup aidés.
Mais en déchiffrant un peu, vous êtes comme un latiniste, vous pouvez...
On va dire oui, Nicolas.
Super, ça.
Europe 1, 14h-15h, la voie est libre. Nicolas Carreau.
Bon, faut qu'on avance, Vincent, parce que là, on se fait la terre du milieu en 20 minutes, donc faut qu'on trottine un peu, je suis désolé. Mais là, on vient d'arriver dans une salle consacrée à la magie, c'est ça?
Absolument. Avec le duo reconstitué, Saruman, Gandalf.
Saruman, le méchant, Gandalf, le gentil. Si on...
Sauf qu'on ne le sait pas au début. C'est-à-dire qu'au début du Seigneur des Anneaux, Saruman est une figure de sage. C'est même le supérieur de Gandalf. On ne sait pas trop qui sont ces personnages, sinon des détenteurs de connaissances qu'ils transmettent aux gens qu'ils conseillent. Gandalf a l'air un petit peu anodin au début du Seigneur des Anneaux. Il fait des feux d'artifice, tandis que Saruman est quelqu'un de très impressionnant, à la parole rare. Et en fait, au fil du récit, Gandalf va décider de prendre fait et cause pour les héros, tandis que Saruman succombe à la séduction du pouvoir, à la séduction de l'anneau, et décide d'essayer de prendre l'anneau pour lui-même, parce qu'il il succombe à l'envie d'utiliser cette arme.
Et là, qu'est-ce que c'est? Ce sont les grimoires de Gandalf ou Saruman?
Pour montrer quelles pouvaient être les représentations médiévales des tours, des magiciens, la Bibliothèque nationale expose des ouvrages magnifiquement enluminés pour aider les lecteurs à visualiser ce que pouvaient être les référents de Tolkien qui passaient son temps dans des bibliothèques ou à faire cours.
Et là, donc, on arrive dans la salle consacré
au Mordor,
au grand
c'est le
méchant.
Terme du voyage.
Et qu'est-ce que c'est que cette image très impressionnante?
Ça va être une surprise pour beaucoup de visiteurs, puisque contrairement à ce qu'on croit souvent savoir, et en raison des adaptations cinématographiques, Sauron n'est pas un œil, mais un être pleinement incarné. Et ce qui a été mis en valeur, mis en avant, c'est son bras, sa tête, son bras qui s'étend sur la Terre du Milieu et qui essaie d'étendre son emprise depuis le Mordor, qui se trouve au sud-est. Donc dans cette salle circulaire, vous nous voyez venir, figure un certain nombre d'éléments qui vont permettre de représenter le terme du voyage, le lieu le plus dangereux, un lieu aussi inspiré par l'expérience que Tolkien a faite pendant la Première Guerre mondiale. Ce que je voulais vous montrer, c'est ce manuscrit où figure un chapitre du futur Seigneur des Anneaux et un dessin. Donc c'est l'antre de l'araignée à Règne. Un dessin en couleur. Tolkien avait besoin d'imaginer concrètement le cadre de l'histoire pour être plus réaliste.
Et vous avez même impressionnant. Il y a le dessin sur un côté et au centre de la page et le texte tout autour.
Exactement. C'est et vous incroyable. Avez même le plan des souterrains de l'antre d'araignée, parce que Tolkien a besoin de savoir à quelle vitesse cette araignée géante se déplace.
Nous, on va arrêter momentanément notre itinéraire ici. On se retrouve dans un instant pour parler de l'homme, de Tolkien lui-même. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
De retour dans La Voix est libre, consacrée aujourd'hui à la visite de l'exposition Tolkien avec notre guide, le co-commissaire de l'exposition, Vincent Ferré, grand spécialiste de Tolkien. Et là, on se retrouve dans la dernière partie de l'exposition consacrée à Tolkien lui-même. Et il y a une belle photo en noir et blanc de Tolkien avec sa pipe et avec son regard là, qui a l'air d'être d'une bienveillance, d'une gentillesse. C'est toujours ce que je me suis dit quand j'ai vu les photos de Tolkien, c'est vrai ou pas?
C'est exactement l'impression qui se dégage, non seulement des photos, mais de l'interview de la BBC qui est diffusée en partie, et aussi de ses lettres. Tolkien a toujours pris beaucoup de temps, alors qu'il manquait de temps, il a pris beaucoup de temps pour répondre aux lecteurs qui lui ont écrit sur plusieurs décennies, demandant des précisions sur cet univers, sur ce que devenait tel Hobbit, et ce plaisir qu'il avait à partager une caractéristique du professeur, de l'éditeur de textes médiévaux et de l'auteur d'histoire qu'il a partagé avec des générations.
Là, il a à peu près 65-70.
Voilà, c'est une photo, effectivement, où il approche de la fin de sa vie.
Et en face, il est avec une bande de copains. Qu'est-ce que c'est que cette photo magnifique?
En fait, il était souhaitable dans l'exposition de bien montrer que Tolkien était un homme de son siècle. Il ne vivait pas du tout en Terre du Milieu. Il a choisi de donner cette forme à son histoire, mais il était très ancré dans le XXe siècle. Et là, on voit un groupe de 5 amis étudiants à Oxford, avant la guerre, 1911, lorsqu'il arrive à Exeter College, qui est l'un des collèges d'Oxford, là où est passé, par exemple, William Morris, qui a influencé beaucoup Tolkien dans son style de récit. Et c'est avant le carnage de la Première Guerre mondiale dont Tolkien a réchappé par le plus grand des hasards. Il est tombé malade. Et c'est la raison pour laquelle les deux photos figurent à côté d'une chronologie qui rappelle les grandes dates de la vie de Tolkien et aussi tous les textes qui ont été publiés après sa mort par son fils, Christopher Tolkien, qui aura très bientôt son anniversaire et 95 ans et qui est une personne qui a encouragé avec beaucoup de bienveillance cette exposition.
Donc Le Hobbit, c'est 1937, Le Seigneur des Anneaux,
54-55. Et en fait, sans Christopher Tolkien, on pourrait s'arrêter là. Donc à droite figure la vingtaine de livres.
Il y en a beaucoup plus posthume,
en fait. Parce que Tolkien écrivait mais publiait peu, et il rangeait dans un tiroir. Et son fils Christopher a classé, ordonné et déchiffré. Il y a jusqu'à 7 couches d'écriture sur un manuscrit.
Et pourquoi il publiait si peu? Parce qu'il n'en était pas satisfait ou parce que... Pourquoi?
Parce qu'en fait, il écrivait pour lui, pour ses amis, pour son fils. Et il avait l'habitude de se retrouver avec ses amis dans un des pubs d'Oxford. Et il lisait les textes et après, mission accomplie.
Et alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les plans, les fiches des personnages?
Dans la dernière salle intitulée « L'œuvre d'une vie », vous avez côte à côte les premiers dessins datant de 1911 et aquarelles et représentations mentales d'univers imaginés par Tolkien. Et puis des documents qui se rapportent au Seigneur des Anneaux. Des notes, par exemple, dans lesquelles Tolkien s'interroge sur le nom à donner au personnage. Donc on apprend que Frodo a failli s'appeler Bingo. On l'a échappé belle quand même. Et puis il se demande ce qu'il va faire du nécromancien. Est-ce que l'anneau va être utile?
Il y a un plan barré avec des ratures un peu partout. En dessous, il y a des feuilles à 4 en format paysage avec des tableaux très bien faits. Avec, c'est quoi? C'est par personnage?
Chacun des personnages a
telle
date.
C'est la chronologie, en fait.
C'est la chronologie, d'accord. Une sorte de tableau permettant de visualiser la chronologie. Et à côté, vous avez ce qui est célèbre chez les fans de Tolkien, c'est-à-dire un petit document dans lequel il a noté les phases de la Lune. Pour que lorsque tel personnage regarde une lune pleine et qu'un autre regarde une lune pleine, on soit vraiment raccord au niveau des temps. Et ici, vous avez les distances.
Les distances.
Franchies en Terre du Milieu par les orques, par les hobbits. Voilà, il fallait absolument. En fait, Le Seigneur des Anneaux, c'est un roman historique, sauf que le monde est imaginaire.
Et là, on arrive à la fin de l'exposition, à la fin de notre voyage, Vincent Ferré. Qu'est-ce qu'on trouve là?
L'exposition s'achève par un clin d'œil au début et à la naissance de cet univers, sont présentés des dessins et la couverture du livre des Contes perdus, les récits que Tolkien a dictés à sa femme alors qu'il était convalescent, qu'il était revenu du front malade. Et c'était une manière de montrer que l'œuvre de Tolkien a occupé 60 années de sa vie. Et on souhaitait faire figurer également en bonne place une histoire d'amour entre un homme et une elfe qui est aussi une image de sa propre relation avec sa femme Edith, puisqu'on sait que la mythologie est née de la vision de sa femme dansant dans une clairière.
Eh bien, on va se quitter sur cette belle vision. Merci beaucoup Vincent Ferré pour ce beau voyage en Terre du Milieu. Et vous pouvez visiter l'exposition de la BNF jusqu'au 16 février. J'en profite pour vous redire que Le Seigneur des Anneaux a été retraduit, notamment avec la participation de Vincent Ferré. Et ça change vraiment tout. Les chants, les poèmes, tout a été refait. Il faut le lire dans cette version-là. Et vous pouvez visiter l'exposition jusqu'au donc 16 février. Merci beaucoup, Vincent Ferré.
Europe 1.
Retour en studio, mais nous repartons tout de suite à la découverte de la bibliothèque d'Éric Orsena. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
La Voix est libre continue, il est temps de quitter un peu ce studio. Éric Orsena publie un nouveau roman, Briser en nous la mer gelée, chez Gallimard. C'était l'occasion de visiter sa bibliothèque. Bonjour Éric Orsena.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. On est en plein Paris, dans une petite maison, très chouette. Et alors il y a un truc, je m'y attendais un tout petit peu, mais il y a une thématique quand même dans le salon. Là, on est dans le salon devant de votre bibliothèque et il y a des bateaux partout. Tout, c'est quand même, voilà, c'est votre grande passion, la mer.
Alors, au fond, la mer, c'est pour moi exactement comme l'écriture. C'est-à-dire, écrire et naviguer, c'est explorer. Et la page blanche, c'est comme la voile. C'est-à-dire on se lance pour raconter une histoire de la même manière qu'on hisse une page. Et puis, voilà, et ça laisse aussi peu de traces que quand on a navigué sur la mer. Donc, c'est pareil.
Et au-dessus du salon, il y a une verrière immense. Et en guise de volet, on a carrément une voile de bateau.
C'est exactement une voile. D'ailleurs, ça a été fait par le voilier qui fait les voiles de mon bateau, qui s'appelle un dragon. Donc, je tire en fonction des saisons et en fonction du soleil pour ne pas que ça brûle trop les grands boubous de mes marionnettes paliennes.
Et on continue le voyage avec donc cette bibliothèque. Comment est-ce qu'il y a un classement particulier?
Alors, il y a
ou pas
un petit classement, parce que ça, c'est une des bibliothèques de la petite maison. Alors, il y a les livres. Ceux-là, j'aime beaucoup ces livres-là. Il y a le critère. Il y a des livres qui me servent, puisque c'est les livres dans mon bureau qui sont un peu en haut, qui sont les livres qui servent le plus souvent. Il y a une partie des livres de voyage qui sont ici.
Ça, c'est
donc
des guides,
il y a des guides et tout ça.
C'est des guides de voyage que vous avez fait ou que vous avez envie de faire?
Non,
ou
les deux. Que j'ai fait. J'ai énormément sur. Il doit y avoir 220 pays du monde. J'ai été aujourd'hui dans 110.
Argentine, Sahara, Lisbonne, Venise.
Venise, tout ça, il y a tout. L'Inde, il y a le Vietnam. Et puis, il y a des fictions aussi. Il y a l'Australie qui vit en ce moment des périodes terrifiantes. Là, il y a la Nouvelle-Zélande, l'Indonésie, il y a le Kenya. Il y a beaucoup d'endroits.
À gauche, c'est plutôt des romans.
Alors, c'est plutôt. Ici, c'est des romans. Plutôt des romans, quelques essais mêlés.
Là, on a quelques classiques.
Il y a quelques classiques. C'est un peu désordonné ici. C'est un petit peu plus ordonné avant.
Il y a un de mes préférés.
Évidemment. Ah bah moi,
20 ans après de Dumas, La suite des mousquetaires.
Ah, c'est ce que je préfère. Il y a la nostalgie, il y a tout ça. Ils sont là, un peu vieux, un peu fatigués. Est-ce qu'ils vont se relancer dans une nouvelle aventure? C'est un livre qui, à chaque fois, me bouleverse, que je lis tous les 2-3 ans.
Parce qu'il n'y a pas les mousquetaires à côté. C'est votre préféré, c'est 20 ans après.
C'est 20 ans après.
Et le vicomte de Bragelonne qui suit.
Aussi, mais c'est 20 ans après. Après, le vicomte de Bragelonne s'attire un peu. Et vous avez Blaise Cendrars, vous avez Jack London. Vous voyez, vous avez...
On va trop vite là, parce que Jack London et Blaise Cendrars, là, en matière de voyage...
Oh bah, c'est bien.
C'est quoi? C'est eux qui vous ont donné envie de voyager?
Non. Là, c'est mes parents qui ne voyageaient pas du tout. Regardez ce titre, Du monde entier.
Oui.
Donc, non, c'est pas du tout. C'est Tintin qui m'a donné envie de voyager. Tintin, absolument, Tintin. Tintin m'a donné envie de voyager parce que je me suis dit, moi, je serais comme Tintin. Je voyagerai partout, mais il y aura des dames plus belles que dans Tintin.
Mais il n'y a jamais d'histoire d'amour dans Tintin.
Jamais.
On peut supposer un moment à Doc et la Castafiore éventuellement,
mais
zéro.
Non, il n'y a pas de femme.
C'est un peu la faiblesse de Tintin.
Alors, c'est la grande faiblesse de Tintin et que moi, j'ai compensé. Donc, j'étais passionné par Tintin, mais très vite, j'ai demandé un abonnement au journal Elle. Parce que j'avais qu'un frère, j'avais des cousins, et puis les cousines sont arrivées après, et donc je vivais dans un univers complètement masculin, et voilà. Donc à 11 ans, j'ai demandé un abonnement à Elle. Et donc à 11 ans, j'ai reçu pour mon anniversaire un abonnement à Elle. Donc après, j'ai connu les responsables de Elle, et je...
Ça vous intéressait, Elle, à 11
ans? Passionné. Passionné de regarder comment elle s'habille, etc. Donc je suis assez bon en mode. Alors ça, c'est l'histoire.
Alors ça, c'est le côté histoire. Il y a des biographies de grands hommes, Mazarin, Louis XI.
Il y a beaucoup de musique, puisque je suis fou de musique. Et donc, il y a...
Qu'est-ce que c'est que ce casque, à côté?
Alors, c'est quelque chose que j'ai revenu du Vietnam, parce qu'il se trouve que je suis co-scénariste du film Indochine. Donc, j'étais au Vietnam et donc j'ai rapporté ce
avec l'emblème soviétique.
Complètement. C'était là, voilà. Voilà. Autrement, il y a, vous voyez, des biographies un peu partout.
Ouais, Mozart, Bach.
Mozart, Goff, et puis l'histoire, il y a Léonard de Vinci, le très beau livre de Serge Bramley. Il y a Paul Morand, et puis un peu de musique, mais il y en a beaucoup. Au-dessus, parce que ça, c'est la première bibliothèque, c'est la bibliothèque du rez-de-chaussée. Et il y a, c'est ce que j'adore vraiment, c'est Hugo Pratt, les souvenirs d'Hugo Pratt. Et il a le plus beau titre qui soit d'une biographie.
Hugo Pratt, Corto Maltese.
Corto Maltese, bien sûr, c'est le désir d'être inutile.
Ah oui.
Ça, c'est quand même, c'est une belle ambition, ça.
Ouais, ouais. Non, mais alors attendez, parce que Hugo Pratt, il faut qu'on en parle un petit peu quand même. Quand est-ce que vous l'avez découvert? Par Corto Maltese?
Alors, par Corto Maltese. Ah oui, alors ça a été après. Après, je l'ai rencontré, et d'ailleurs, j'ai rencontré Hugo Pratt. J'ai eu cette chance-là, et on avait un projet en commun, justement sur la mer, et ce crétin est mort.
Ah ben, justement, il y a eu une polémique récemment à cause du retour de Corto Maltese, mais pas par Hugo Pratt, effectivement. Bah oui, mais non, certains disent, ah non, on ne peut pas toucher, etc.
Ah bah non.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, quand on reprend Sherlock Holmes ou...
Oui, alors, quand on reprend, peut-être, c'est pas la même chose, quoi. C'est autre chose. On a le droit de faire des variations, de toute façon. Regardez le nombre de fois on a raconté l'histoire du Cid, ou tout ça, c'est des... ou du Juif errant, ou tout ça. On reprend un thème, mais c'est pas la même chose. Voilà, le mythe qui est repris. Mais c'est autre chose.
La question, en fait, c'est est-ce que les personnages appartiennent à l'auteur ?
Non, hein ? Mais tant mieux. Enfin, si, mon rêve serait qu'un de mes personnages, Madame Ba ou un autre personnage, soit repris par d'autres. Ça veut dire qu'il continue à vivre. Vous savez, c'est ça, c'est toujours... On parlait de tout à l'heure de l'eau, de la mobilité, c'est ça. C'est-à-dire la métamorphose, on enchaîne, et que ça ne s'arrête pas et que d'autres prennent le relais. Oh non, propriétaire de rien du tout.
Et alors, il y en a une à l'étage ?
Il y en a deux étages. Et voir.
Petit escalier en colimaçon.
Là, partout.
Très chouette.
Donc, ici.
On se croirait un peu dans un bateau, c'est vrai.
Là, on est dans un bateau. Alors, il y a...
Deuxième escalier. Encombré de livres.
Voilà.
Faire attention.
Et alors, ça, c'est...
Ah ouais.
C'est le bureau pour la non-fiction. Ça, c'est là où il y a...
Attendez un mot sur le bureau, quand même, parce qu'il est magnifique.
Le bureau, c'est un bureau cubain du début du 19e, en acajou. Et je trouve magnifique.
Il fait bien 2 mètres
beau,
de large.
Hein.
Et puis il y a des petits tiroirs très
partout.
Mignons.
Partout. Et là, c'est les projets de livres, vous voyez. Hop.
Oula.
Des projets de livres. Projets de livres.
Ah, celui-ci.
Non, ici, non. Mais ici, il y a des projets de livres. Un projet de livre sur le temps. Vous voyez. Et un projet de livre aussi, toujours sur le
Chaque
temps.
Chaque tiroir, c'est un livre.
Oui, c'est un projet de livre. Et ici, il y a, par exemple, les fleuves. Ici, il y a la transition énergétique. Ici, il y a Pasteur. Donc, vous voyez, partout, c'est à peu près organisé.
Alors, je ne vois pas d'ordinateur. Vous écrivez à la main ?
Non, parce que non, j'écris maintenant à la main, bien sûr, mais aussi sur le mini iPad que j'adore parce qu'on peut le transporter.
Vous écrivez sur iPad ?
Absolument, aussi.
D'accord, mais c'est complet.
Vous voyez ?
Mais alors, c'est quoi votre préféré du monde, quoi ? Celui que vous emmenez sur l'île déserte ?
Ah non.
Et vous n'avez pas de bateau pour repartir ?
C'est Shakespeare.
Ah oui.
Il y a tout dans Shakespeare. C'est Shakespeare.
Merci beaucoup, Eric Orsena.
De rien, c'est moi.
Europe 1.
De retour en studio, et je rappelle le titre du dernier roman d'Eric Orsena, Briser en nous la mer gelée. C'est chez Gallimard. Et merci à Fabien Duchesne pour la prise de son. Restez là, les libraires de La Voix et Livre arrivent avec 2 bonnes idées de lecture. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix et Livre.
Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix et Livre avec les professionnels du livre, c'est-à-dire les libraires. Aujourd'hui, Christophe Daniel de la librairie La 25e Heure, c'est à Paris, et Jérémy Banel, les librairies Lamartine, à Paris aussi.
Bonjour,
bonjour
Nicolas.
Les libraires.
Bonjour Nicolas.
On commence avec vous, Jérémy Banel, et un livre qui a l'air vraiment très bien, que je n'ai pas encore lu, mais ne me le spoilez pas.
Alors je vais essayer de ne pas spoiler, je vais en dire le minimum, mais assez pour vous donner, j'espère, envie de le lire. Je vais commencer d'abord en disant qu'il est terrifiant. Il est à proprement parler terrifiant, mais c'est probablement pour ça qu'on aura envie de le lire. Il s'agit de Tempête, de André Michaud, aux éditions Payot Rivage.
Tempête au pluriel.
Tempête au pluriel. Donc dans une collection, c'est un policier roman noir, plutôt roman noir que policier d'ailleurs, qui se passe autour d'une montagne qui s'appelle le Massif Bleu, on est au Canada, et cette montagne attire autour d'elle tout un tas d'histoires particulièrement lourdes et chargées. On va suivre 2 histoires l'une après l'autre. D'abord celle de Marie Saint-Onge qui aménage dans une vieille maison que lui a léguée un oncle avec une histoire un peu chargée. Et d'un autre côté, un auteur en quête d'inspiration qui va aller de l'autre côté du versant de la montagne. Mais tous les deux vont être attirés par la puissance assez magnétique de cette montagne. Des morts bizarres vont commencer à surgir. Et en fait, ce livre raconte l'espèce de cauchemar qui peut habiter les gens quand on commence à rentrer dans une espèce d'inquiétude, presque de paranoïa. Vous imaginez la maison qui grince, les choses un petit peu bizarres qui se passent autour de vous, et surtout la folie qui guette en fait, petit à petit quand on est seul, isolé, la tempête de neige qui coince dans la maison. Et c'est en fait une espèce de plongée incroyable dans la folie des hommes et des femmes et dans ce que la psyché peut nous faire. Moi, j'ai vraiment ressenti ça comme un cauchemar, vraiment. Très bien raconté, avec une langue incroyable, vraiment qu'on lit rarement dans du policier. Mmh. Et une plongée très, très dure dans ce qu'on peut produire nous-mêmes de pire dans nos têtes, en fait.
Un mot de l'auteur, de l'écrivaine, peut-être André Michaud, qui avait signé Bondré, qui était un roman magnifique.
Moi, c'est comme ça que je l'avais connue. Elle avait eu le prix Rivage des libraires pour ce titre, si je me rappelle bien, qui était aussi une histoire qui se passait autour d'un lac. Donc, on voit peut-être des sujets qui intéressent l'auteur. Et encore une fois, ce qui est particulier avec elle, c'est l'exploration psychologique et la langue riche et rare pour ce genre de littérature. Et vraiment un livre terrifiant, mais un plaisir. Incroyable.
Et la couverture est magnifique. On voit une cabane avec de la neige, beaucoup de neige dessus, et puis en arrière-plan des sapins enneigés et juste une petite lumière dans la fenêtre de la cabane.
Ouais,
rien que ça, déjà, on est dans l'ambiance.
Une toute petite lumière. Ouais. Vous verrez en lisant, la lumière est minuscule au milieu de l'obscurité.
Tempête au pluriel d'André Michaud, c'est chez Rivage Noir. À vous, Christophe Daniel.
Alors moi, je vais vous parler d'un roman d'un jeune auteur qui s'appelle Boris Vian.
Ah, voilà. Je ne connais pas.
Non, mais... ou Bison Ravi, certains l'appellent comme ça aussi.
Ah oui, c'est l'anagramme. Voilà.
Ouais, ouais, ouais. Et donc, en 2020, on va fêter le centenaire de Boris Vian. Donc, il va y avoir pas mal de publications autour de cet auteur. Et parmi ces publications, un inédit aux éditions Fayard qui s'intitule « On n'y échappe pas ». Donc Boris Vian en est le co-auteur parce qu'il a été épaulé par 6 membres de Loulipo. En fait, Boris Vian avait écrit 4 premiers chapitres d'un roman qu'il destinait à la série Noire, qui était à ce moment-là dirigé par Marcel Duhamel. Et Nicole Berthold, qui s'occupe du patrimoine de Boris Vian, a demandé à Loulipo s'il voulait bien continuer le roman de Boris Vian, qui avait laissé le synopsis intégral. Hein. Il avait écrit les 4 premiers chapitres, mais le synopsis était terminé. Et ces 6 membres de Loulipo ont terminé le boulot, voilà, avec tout l'humour, toute l'érudition et tout le côté ludique
Loulipo,
qu'on imagine.
Loulipo, rappelle, c'est un collectif d'écrivains qui s'amusent avec la littérature. Qui
voilà, alors Loulipo, c'est l'ouvroir de littérature potentielle et ils se fixent des contraintes pour produire leurs textes.
Écrire un roman sans telle lettre.
Exactement,
etc.
Comme La disparition de Pérec, ouais. Ou d'autres exemples. Et donc... ce roman, c'est un Boris Vian, mais plutôt versant Vernon Sullivan, un roman noir. Ouais. Qui se passe aux États-Unis. On va retrouver Frank Bolton dans les années 50 qui rentre de la guerre de Corée. Il a perdu un bras, une main plutôt. Et en rentrant aux États-Unis, il s'aperçoit que toutes les femmes qu'il a aimées sont assassinées les unes après les autres. Donc il décide de mener l'enquête avec l'aide de son ami Narcissus qui est détective et sa compagne, la magnifique Carmen. Voilà,
parfait.
On n'y échappe pas.
De toute façon, voilà, rien que le nom de l'auteur, on y va quoi.
Bah, on y va en confiance. On n'y échappe pas, exactement.
C'est aussi le titre donc, de Boris Vian avec Loulipo, c'est chez Fayard. Et puis je rappelle, Jérémy Banel, André Michaud, Tempête au pluriel chez Rivage Noir. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci Nicolas.
Merci.
Merci beaucoup à tous les deux. On part pour le rayon jeunesse maintenant avec Victor Dolande.
Il était une fois.
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 Et comme chaque semaine, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, vous nous présentez un roman intitulé « La vie secrète de la forêt » de Grégoire Solotareff.
Oui, c'est une bible de la forêt que nous présente Grégoire Solotareff, monstre de la littérature jeunesse, auteur de plus de 150 livres pour les enfants. Ce livre, il est découpé en 4 parties, 4 saisons, avec à chaque fois des mini-histoires de 2-3 pages maximum sur les habitants de la forêt, les animaux, les lutins, les sorcières. C'est vraiment passionnant.
Vous nous donnez quelques exemples d'histoires ?
Ah oui, il faut que je vous donne un peu envie. Il est par exemple question d'une sorcière qui a une dent contre les gâteaux, de castors qui se chamaillent ou qui organisent des fêtes d'anniversaire. Un conte merveilleux évoque la mise à mort d'une abeille dans la toile d'une araignée. La bête poilue va faire preuve de clémence pour augmenter sa cote de popularité dans la forêt. Alors c'est impossible vraiment d'être exhaustif, il y a tellement d'histoires géniales. Je vous en donne quand même une petite dernière, sûrement ma préférée, intitulée « Une vie paisible ». Deux grenouilles sont dans un étang, l'une d'eux est terrorisée par tout ce qui l'entoure et surtout, elle ne comprend pas comment sa congénère peut être aussi tranquille, aussi cool avec tous les dangers qui existent. À ce moment, elles entendent un gros plouf. C'était quoi ? Demande la grenouille stressée. Bah, comment veux-tu que je le sache ? Lui répond la grenouille cool. L'instant d'après, elles se font gober toutes les deux par un gros héron, mortes sur le coup, au même âge. L'une a vécu paisiblement, l'autre pas.
Ouais, c'est carrément de la sagesse bouddhique, quoi.
Il y a un petit peu de ça. Il y a vraiment un grand mélange chez Solo Taref. C'est vraiment le livre de toute sa vie. Il a compilé plein de petites histoires depuis de longues années, des bouts de papier griffonnés, accompagnés de petites illustrations. Il y a quelques années, il écrivait pour ses enfants. Maintenant, la donne a un peu changé, comme il me l'a expliqué.
J'ai pas un public immédiat, mais j'y pense non pas comme si je racontais une histoire à quelqu'un, mais comme si je me racontais une histoire. Avant, j'avais mon fils devant, et donc je racontais, et puis ma fille, etc. Et maintenant, c'est plutôt, j'ai envie de retrouver des émotions d'enfance personnelles. J'essaie de me souvenir qu'est-ce qui me faisait le plus plaisir, ou qu'est-ce qui me capter le plus mon attention quand on me racontait une histoire.
Et en puisant dans ses souvenirs, Grégoire Solo Taref nous livre un chef-d'œuvre où se croisent plein de bestioles à qui il arrive toujours des histoires incroyables. 300 pages à picorer, découvrir et relire à partir de 9 ans.
Et la couverture est très jolie en rouge et jaune, comme ça on rappelle le titre « La vie secrète de la forêt » de Grégoire Solo Taref. C'est édité par l'École des loisirs. Merci Victor.
À la semaine prochaine Nicolas.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide. Merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, pour la réalisation et à Xavier Joly pour sa programmation musicale. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. À la semaine prochaine.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
Nicolas Carreau.